Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Beaucoup de responsables d'ONG ont des difficultés pour assurer une bonne gestion financière de leur structure. Une fois qu'on reçoit l'argent, le financement, l'argent est utilisé, et même pour apporter les justificatifs, ça devient un problème. Donc, on ne sait pas justifier l'affectation de l'argent reçu. Et ce qui crée une certaine méfiance auprès des bailleurs et voilà, et d'autres organismes qui sont déçus et puis qui ne vont plus financer prochainement parce qu'on ne sait pas bien faire l'état financier, n'est-ce pas, de l'ONG, montrer que voilà comment on a utilisé cet argent. Et voilà. Et alors, que faire pour arriver à instaurer une bonne gestion financière au sein de votre ONG et de cette façon et arriver à avoir la confiance, n'est-ce pas, des bailleurs des fonds? Alain Poutou est expert en ressources humaines. Il a eu encadré bon nombre des ONG dans ces domaines. Alain Poutou, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Je me rappelle qu'à un moment, vous étiez même au Burundi pour former des ONG dans ces domaines. Alors dites-nous d'abord comment les ONG généralement gèrent les finances.
Oui, ça c'est un problème très sérieux. Vous savez, il y a beaucoup de promoteurs des ONG confondent les ONG et leurs poches. Donc vous pouvez être initiateur d'une association et il ne faut pas confondre l'association avec votre poche.
Oui.
Alors normalement, un bailleur de fonds a visé avant de financer une ONGD. Mmh. Le bailleur de fonds va d'abord s'assurer de votre capacité de gestion financière. Alors quand on parle de la capacité de gestion financière, c'est-à-dire la manière dont vous avez déjà géré, n'est-ce pas, les fonds que vous avez reçus avant que lui ne puisse vous financer.
Mmh.
Alors, normalement, pour insérer une bonne gestion financière au sein d'une ONGD, à la création d'abord de l'ONGD ou de l'association, c'est l'Assemblée générale qui nomme d'abord les administrateurs. Alors, la monnaie courante est que vous verrez les mêmes gens qui font partie de l'Assemblée générale et aussi s'impliquent dans la gestion de l'association.
Oui, généralement, il y a un conseil d'administration.
Alors, il y a
un coordonnateur et puis...
Oui, mais maintenant, lorsqu'il y a un financement, vous verrez que même ceux-là qui sont dans les conseils d'administration, ils s'impliquent aussi dans la gestion financière. Or, normalement, à la création d'une ONGD, l'Assemblée générale doit nommer les administrateurs. Ce sont ces administrateurs-là qui sont des exécutants, les gens à qui on a confié la gestion, n'est-ce pas, de l'ONGD entre leurs mains. Alors, ces
administrateurs...
Les administrateurs, là, pour les nommer, il faut aussi associer quelques membres fondateurs de l'ONGD. Alors, ils vont faire un collège des administrateurs. Et les conseils d'administration avec l'Assemblée générale doivent mettre en place ce qu'on appelle le manuel des procédures administratives, logistiques et financières. Alors, ce manuel des procédures doit définir les règles de gestion financière de l'ONG. Donc, ce n'est pas que l'ONG se réveille un matin et dit non, ok, nous allons gérer nos finances de telle manière. Non. Il faudrait d'abord au préalable qu'il y ait un manuel de procédures de gestion administrative, logistique et financière. Parce que l'ONGD n'a pas que l'argent. L'ONGD reçoit ce qu'on appelle appui institutionnel, c'est-à-dire un bailleur de fonds peut leur donner les matériels, les outils de travail.
Mmh.
Alors, on doit quand même aussi voir la rigueur dans cette gestion. On vous donne, par exemple, oui, ordinateur, mais vous vous dites, ok, moi, monsieur, je dis, je suis l'initiateur de l'ONGD, vous
deux
récupérez un ordinateur portable,
maison,
ou
oui.
Deux, vous, vous commencez une bureautique chez vous, quartier, avec les mêmes, donc
où
vous avez reçu
le cybercafé,
voilà,
à côté.
Cybercafé à côté des bailleurs des fonds. Or, il faut mettre en place les manuels des procédures. Ces manuels-là doivent définir comment est-ce que les aspects administratifs de l'ONGD doivent être gérés. La logistique, par exemple, vous avez des motos et des véhicules pour des ONGD qui sont, par exemple, à l'intérieur du pays et n'ont pas de véhicules. Elles ont les motos, elles ont des vélos, ça fait partie de leur charroi. Mais comment est-ce qu'il a géré? Vous verrez que le président de l'ONGD récupère une moto et il met chez lui, et on consomme des carburants comme on veut, il n'y a pas de carnet de bord, il n'y a pas
oui,
de fichier.
Donne un petit oui, ouais,
voilà, ou qui fait les taxis pour lui et puis le soir il lui amène les recettes. Alors ça, c'est du désordre.
Oui.
Et dans ces manuels de procédure là, surtout la partie financière, c'est ce qui intéresse plus les bailleurs de fonds. Alors, il faut signaler que les ressources financières qu'une ONG a, ce qui lui permet de fonctionner, ça vient soit des dons qu'ils ont reçus des personnes de bonne volonté. Deuxième source de financement de ces ONG, c'est que les cotisations des membres. Il y a des membres aussi qui cotisent à la création de l'ONGD. Il y a des gens qui donnent leur argent. Et il y a aussi les activités génératrices de revenus. Vous savez qu'actuellement, les bailleurs de fonds, surtout les partenaires au développement, même pour financer un projet, les partenaires veulent que l'ONG qui exécute les projets ou celui qui demande le financement ait aussi des activités génératrices de revenus, ce qu'on appelle les AGR. Donc, ça permet la pérennité des projets. Donc, quand le financement va s'arrêter...
C'est-à-dire que le bailleur de fonds ne vous finance pas totalement.
Non, même dans un projet, quand on dit le coût global, c'est 16 000. Lui, vous dit, OK, dans mon plan de travail annuel, j'ai prévu pour un tel projet, je vous finance 12 000. Et vous allez expliquer dans les détails, dans les budgets du projet, comment est-ce que vous allez mobiliser les restes d'argent. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous avez des cotisations que vous faites vous-même, n'est-ce pas, ça vous permet de couvrir. Ou bien vous avez les activités génératrices de revenus. Vous êtes une ONGD, mais vous avez d'autres activités, n'est-ce pas? Par exemple, au sein de l'ONG, vous avez un service, soit d'audit hein, ou d'évaluation. Vous allez faire les évaluations pour d'autres ONGD, on vous paye aussi. Ou bien vous avez formé des gens dans la fabrication de peinture. Quand on vend la peinture que vos membres ou vos bénéficiaires fabriquent, ça vous permet de générer des recettes. Alors ça, ce sont les activités génératrices de revenus à l'ONGD. Et aussi, les financements reçus des bailleurs de fonds. Voyez, parce qu'il y a beaucoup
Monsieur Alain, certains disent qu'il faut, pour bien gérer les fonds au sein de l'ONG, il faut avoir un compte bancaire. Et s'il faut, par exemple, sortir l'argent, il faut 2-3 signatures.
Justement, on va y arriver. Donc, vous avez les fonds reçus des bailleurs. Maintenant, c'est compliqué avec les bailleurs de fonds. Lorsqu'un bailleur de fonds vous finance, les bailleurs de fonds établissent déjà à l'avance un budget. Et dans ce budget-là, ça prévoit les activités à mener. Et chaque activité prévoit déjà aussi la liste de dépenses à effectuer. Et dans chaque dépense, on va déjà allouer un montant X. Alors, vous, maintenant, à l'exécution de votre budget, vous êtes censé respecter les indications des bailleurs de fonds par rapport à l'utilisation des fonds. Et à la fin, maintenant, du projet, l'ONGD qui a reçu le financement, elle doit faire un rapport de justification des fonds. Expliquer aux bailleurs de fonds l'argent que vous avez reçu de sa part, comment est-ce que cet argent a été utilisé. Vous justifiez cet argent avec ce qu'on appelle des pièces à conviction. Il faut joindre les pièces justificatives dans votre rapport financier de fin projet. Et ces rapports-là, vous devez les faire en deux parties. Il y a la partie technique qui consiste les activités que vous avez menées. Et il y a aussi la partie de reportage financier. Comment l'argent a été utilisé? Parce que je vais vous dire qu'il y a des ONGD qui mobilisent les fonds chez les bailleurs, on leur donne le financement, mais les promoteurs, là, c'est vraiment une idée d'opinion qui sait convaincre la masse. Il descend, il intéresse les volontaires et les gens ont travaillé volontairement dans les projets. En réalité, tout ce qu'il a reçu comme financement n'a pas été utilisé pour les projets. Mais il a atteint les résultats. Les résultats sont là, mais il n'a même pas dépensé un rond dans l'enveloppe reçue du bailleur des fonds. Alors, maintenant, il doit justifier les fonds. Qu'est-ce qu'il va dire au bailleur?
Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent?
Justement, et vous verrez facilement, il peut aller acheter un lot de terre quelque part, il construit, mais avec le financement qu'il a reçu de Bayer.
Alors, un lopin de terre, la parcelle, c'est pour lui.
C'est pour lui, mais à son nom.
L'organisation,
alors,
en son nom.
Alors, quand les bailleurs des fonds vous financent, c'est ça le principe. Et vous avez l'obligation de justifier les fonds. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être rigoureux dans votre gestion dans l'ONG? Il faut d'abord engager un comptable et les auditeurs. C'est vraiment important. Vous pouvez
auditeurs internes et externes.
Oui, vous prenez les auditeurs internes dans votre association. Et les auditeurs externes, là, ils viennent soit des bailleurs des fonds qui les a envoyés pour faire les évaluations de l'argent qu'ils vous a donné. Alors, si vous êtes les promoteurs de l'ONGD, évitez de vous mêler dans la gestion. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une main dedans. Engagez une autre personne. Vous allez vraiment vous retirer totalement des finances de cette ONG. Vous élaborez des procédures. Après avoir élaboré des procédures, vous engagez maintenant un comptable. Le comptable est là pour faire quoi? Pour s'assurer, n'est-ce pas, du respect de ces procédures de gestion que vous avez mises en place. Le comptable, vous l'engagez, il est là, lui, vraiment s'occupe des aspects comptables et financiers. Vous prenez aussi les auditeurs qui doivent, n'est-ce pas, vous fournir les rapports et vérifier les comptes auprès du comptable régulièrement. C'est vraiment important. Alors, chaque fin du mois, vous devez mettre en place, par exemple, le dernier vendredi du mois, qu'on doit avoir une réunion, n'est-ce pas, pour la transparence des comptes. Qu'on sache un peu les mois ici qui viennent de s'achever, comment est-ce que nous avons utilisé l'argent qu'on avait. Est-ce qu'on a respecté les lignes budgétaires? Est-ce que nous étions dans les marges? Est-ce que notre programmation financière a été respectée ou nous avons eu des dépassements? Est-ce qu'il y a un solde dans notre compte de fonctionnement? Alors, on vérifie tout ça chaque mois. Vous prenez peut-être les 25 ou les derniers vendredis du mois pour faire les rapports, les reportages mensuels avec des pièces justificatives.
Quelles sont ces pièces justificatives qu'il faut avoir?
Toutes les factures en rapport avec les dépenses, il faut les joindre dans ces rapports. Et vous devez faire aussi les journaux des opérations de la caisse. Les entrées, les sorties des fonds de la caisse, il faut que ça soit dans un journal. Et vous précisez même les bénéficiaires de l'argent. Qui a la dépense que vous avez effectuée ici, vous avez acheté par exemple les fournitures de bureau. Vous précisez même la maison, hein, les fournisseurs qui vous a livré ces fournitures.
Oui.
Même la référence de la facture que le fournisseur vous a donnée, y compris les montants. Voyez, alors les mêmes opérations que vous avez dressées dans les journaux des caisses, on doit aussi les voir dans les journaux qu'on appelle les journaux des achats, qui est dressé par les logisticiens. C'est lui-là qui était chez le fournisseur pour acheter. On doit voir à la même date aussi, lui doit reconnaître qu'il a effectué les dépenses de tel montant pour acheter tel article, tel article, tel article. Deuxième, il faut ouvrir un compte bancaire. Et le compte bancaire doit être ouvert au nom de l'ONGD. Mais pas au nom de son initiateur. Vous êtes le président d'une ONGD, on ouvre un compte bancaire, vous mettez votre nom, Monsieur Jody. Non, ça c'est contre. Parce que les bailleurs de fonds supposent que ce n'est pas le compte bancaire de l'ONGD, mais c'est votre compte bancaire. Vous voyez, ça c'est vraiment un aspect important. Alors, dans ce compte bancaire-là, à l'ouverture, il faut qu'il y ait au moins 3 signataires. Il y a d'abord vous-même comme initiateur, parce qu'après tout, c'est vous qui avez eu l'initiative. Il y a aussi votre financier. Il doit aussi être signataire.
Le comptable.
Et le comptable. Il y a aussi le secrétaire, n'est-ce pas, secrétaire général. Vous avez au moins 3 signatures. Alors, à chaque mouvement de retrait des fonds dans la banque, il faut les 3 signatures. Et vous donnez même les instructions à la banque que si quelqu'un venait avec un chèque de tel montant, vous nous appelez pour vérifier réellement si c'est nous qui avons, n'est-ce pas, donné l'autorisation qu'on sorte l'argent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent imiter, n'est-ce pas, les signatures des gens pour aller sortir l'argent dans la banque.
Oui.
Alors, dès que vous êtes au nombre de 3, on sait que même l'initiateur, le président lui-même, il ne peut pas blaguer avec l'argent de l'ONGD. Parce que s'il a besoin d'un 100 dollars, il faut au moins 2 autres signatures. Et ces gens-là doivent savoir les 100 dollars qu'ils veulent sortir de la banque ici, c'est pour quel fait. Alors, si les explications ne sont pas claires, ils savent que ça n'a pas été budgétisé, ils ne vont pas signer. Et en même temps, ça vous coince maintenant vous-même comme initiateur d'être rigoureux dans votre... Donc, vous vous imposez des disciplines personnelles dans votre gestion. Et autre chose...
Bien,
est-ce que...
on va y revenir dans quelques instants. Nous parlons de comment instaurer une bonne gestion financière au sein d'une ONG. Vous êtes administrateur d'une ONG, membre d'une ONG quelque part à travers le pays. Ces sujets vous intéressent. Vous avez des témoignages, des préoccupations. Composez le 081 890 63 94. Le standard est ouvert. Appelez-nous et nous allons tout de suite vous rappeler pour participer.
7 jours, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment instaurer une bonne gestion financière au sein d'une ONG? Monsieur Alain, vous avez dit, premièrement, il faut avoir un manuel des procédures administratives et financières. Voilà. Et puis, vous avez dit qu'il faut engager un comptable, des auditeurs, ouvrir un compte bancaire. Et chaque fois, il faut faire une évaluation à mi-parcours, à la fin des mois, voir qu'est-ce qu'on a, les dépenses engagées. Voilà. Il faut avoir des factures, journal entrée et sortie, journal des achats. Quoi d'autre?
Oui, il y a aussi le journal des banques.
Le journal des banques.
Des banques, oui. Il faut dresser un autre journal qui donne les informations détaillées sur le mouvement de votre compte bancaire. Vous voyez, vous avez ouvert un compte en banque, mais comment est-ce que ce compte-là est géré? Il faut aussi avoir un journal par rapport
à ça. La banque peut vous donner les relevés.
Non, la banque vous donne des relevés. Les relevés bancaires, là, fait partie de pièces justificatives pour faire ce qu'on appelle les rapprochements bancaires. Comparer les rapports que votre comptable tient au bureau sur la gestion de votre compte bancaire et leur réalité. Ça, c'est la banque qui doit vous donner les détails sur les mouvements que vous avez effectués. Mais si vous, aujourd'hui, vous essayez de mettre un chèque pour payer les frais d'émission de services à un agent, ce n'est pas la banque qui doit passer l'opération pour vous. La banque passe l'opération que l'argent a été retiré. Mais vous, en tant que comptable, vous devez aussi signaler dans les comptes bancaires. On avait d'abord combien et on a dépensé combien. L'argent qui est sorti de la banque, c'est parti où? Par exemple, on a approvisionné la caisse pour permettre à la caisse de fonctionner, tout comme on a payé à certains fournisseurs, n'est-ce pas? Ou alors, vous signalez aussi l'argent qui est dans la banque. Ça vient de qui? Un bailleur de fonds sérieux ne peut pas vous financer à la main comme ça. Il va virer l'argent dans les comptes bancaires. Alors, dès que l'argent est viré dans les comptes, les comptables doivent maintenant signaler dans les journaux des banques qu'il y a eu l'entrée de fonds dans la banque qui vient de bailleur X. C'est important qu'il y ait ces journaux-là.
Okay.
Alors, et il faut retenir aussi que les dépenses doivent être approuvées par les responsables statutaires. Donc, on fait ce qu'on appelle l'état des besoins. OK? On a besoin d'acheter telle chose ou telle chose. Mais ce n'est pas qu'on va seulement comme ça chez les financiers, il sort l'argent. Non. Un financier sérieux, il faut me l'instruire que avant de sortir l'argent, vérifiez que moi j'ai approuvé les dépenses. Si les dépenses ne sont pas approuvées par les responsables statutaires, même quand les bailleurs de fonds vous envoient ces auditeurs, ils doivent regarder est-ce que ces dépenses ici ont été approuvées par le numéro 1 de la maison. Lui est là pour approuver, voir que oui, ces dépenses ici, ça cadre avec notre budget où il n'y a pas un dépassement. Quand lui l'a approuvé, ça va chez les financiers. Les financiers maintenant regardent les montants par rapport à ses prévisions budgétaires. Oui. Est-ce qu'on peut dépenser ou on ne peut pas dépenser? S'il trouve que les dépenses dépassent même les prévisions, n'est-ce pas? Il va vous demander d'aller dans les priorités, chercher un peu qu'est-ce qu'on peut enlever. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la discipline budgétaire. On n'est pas censé exécuter tout ce qui est écrit. Non, on va voir qu'est-ce qui est prioritaire. Est-ce que ces budgets ici, les dépenses ici, correspondent à nos prévisions?
Et souvent,
nos
les gens disent que je veux parler des... comment on les appelle, ceux qui tiennent les finances, les comptables. Certains disent que les comptables sont souvent durs. Hein, quand vous venez avec des demandes, mais il n'accepte pas, il ne va pas répondre à toutes vos demandes.
Mais c'est même ça le principe.
Même si c'est pour le bien, le bon fonctionnement de l'ONG.
Un bon financier, monsieur le journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui accepte oui pour oui. Non, ce n'est pas bon. Et vous comprenez. Et puis surtout que si vous voulez réussir votre initiative, évitez d'employer un comptable qui est beaucoup plus proche de vous. C'est pas bon. Le comptable là va agir avec la faiblesse émotionnelle. Vous voyez? Vous voyez déjà l'initiateur des ONG là, il vient chez vous.
Est-ce que tu peux me donner un petit $100?
Oui. Alors, un comptable sérieux avec qui vous n'avez pas trop de familiarité, même pour aller lui demander l'argent, ça va vous gêner.
Oui.
N'est-ce pas? Mais si vous prenez quelqu'un que vous connaissez, vous le mettez là, c'est-à-dire au travers de lui, vous êtes en train aussi de faire des magouilles. Alors, un comptable rigoureux, même si c'est vous le numéro 1 de l'association, vous venez chez moi me demander $200, je vais vous faire signer un document. Et dans mon rapport que je dois présenter, je dois signaler cette dépense-là. Et la pièce est là. Et vous verrez que tout le monde dans la réunion, il se rencontre, mais il y a plusieurs sorties de fonds au nom de M. Jody. Ça va vous gêner.
Oui, bien sûr.
Alors, si vous prenez quelqu'un qui est plus proche de vous, ça ne va pas. Il va vraiment agir avec des faiblesses émotionnelles.
Nous avons Ogi Bendelo en ligne depuis Kikwit. Bonjour, Ogi.
Bonjour, Jody. Je salue aussi notre invité.
On vous écoute.
Merci, Jody. J'ai une seule question. Je voulais demander à notre invité quelles peuvent être les conséquences dans une ONG où tous les membres sont les membres d'une seule famille ou d'un clan ou d'une amitié quelconque. C'est ce que j'ai voulu savoir.
Voilà. Alors là, c'est les conséquences par rapport aux finances, vous voulez dire?
Oui.
Merci, Yogi. Monsieur Alain Poutou.
Oui, merci beaucoup pour sa question. C'est vraiment une question capitale. Vous savez, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. C'est comme vous êtes là, vous avez dit que okay, je vais épargner mon argent de salaire, je vais ouvrir une pharmacie. Vous prenez votre belle-sœur, vous le placez à la pharmacie comme gestionnaire. En d'autres termes, c'est comme si vous lui avez donné l'argent qu'elle ouvre sa propre pharmacie. Parce que là déjà, on sait qu'il y a trop de familiarité. C'est comme un principe en leadership qui dit que trop de familiarité attire les mépris. C'est-à-dire, si vous vous habituez trop, vous êtes tous d'une même famille. Le président, c'est le papa, les vice, c'est sa femme, les secrétaires exécutifs, c'est sa fille aînée, les trésoriers, c'est son neveu. Mais ça, c'est juste un truc de famille. Et un bailleur de fonds qui a avisé, s'il a des informations solides par rapport à ça, mais écoutez, ça va diminuer déjà la confiance. Il ne peut plus vraiment vous faire confiance. Et maintenant, si les membres, parce que actuellement, pour légaliser les statuts d'une ONGD, on doit voir au moins 7 signatures, vous comprenez, dans les membres fondateurs. Si c'est moins de 7, non. Alors, si M. Augustin est dans une association où il a vu de telles choses, il doit dénoncer ça. Il doit dénoncer ça même dans une réunion.
Il y a certains qui mettent même leur bébé.
Oui, mais il doit dénoncer, dire qu'écoutez, ici, ça ne respecte pas les normes. Parce que même ces gens-là, ils sont choisis, quand vous allez légaliser les statuts, il y a ce qu'on appelle, je crois, annexe 2, la déclaration des membres des comités directeurs. Vous voyez, ces membres-là, les présidents, les vice-présidents, les trésoriers et les secrétaires, ils sont tous nommés par les membres fondateurs à l'ONGD. Ce sont eux qui doivent dire, ok. Et en bas, vous verrez même leur nom ainsi que leur signature pour dire que nous avons mandaté ces gens ici. Mais maintenant, vous mettez votre femme, vous mettez votre neveu sur base de quoi? À moins que ça soit une histoire où les gens n'ont pas été bien informés.
Et quand l'argent arrive, c'est fini.
C'est fini.
C'est l'argent de la famille.
Oui, justement, c'est pour cette raison-là, avant même d'adhérer dans une ONGD, essayez un peu de voir si les choses sont au clair. Si les choses ne sont pas bien définies, il ne faut pas adhérer. Ce n'est pas bon. Vous voyez, ça en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. C'est un mauvais système. Et actuellement, je peux vous le dire que beaucoup de bailleurs de fonds ne financent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez les champs. Vous êtes par exemple au Bandundu, votre ONG a pour domaine d'intervention la sécurité alimentaire. On arrive, on trouve que vous avez un champ, vous avez déjà des bénéficiaires que vous avez commencé à encadrer depuis longtemps et arrivent avec le financement. Ils font ce qu'on appelle la co-gestion, c'est-à-dire ils ne peuvent plus vous donner. Ils vous disent, ok, appelez les membres de votre ONGD, vos bénéficiaires, on va organiser un atelier au centre Nganda. Et même s'occupe de tout ce qui est logistique. Location salle, ils calculent la pause café, parce qu'il y a même des gens, on budgétise la pause café dans un atelier. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils savent que par personne, les bailleurs des fonds avaient prévu au moins 5$ pour la pause café et pause repas 10$. Ça fait déjà 7$ par jour. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils vont aller chercher... 5$, 10$, 15$.
Oui, ça fait déjà 15. Oui. Mais il calcule 15 dollars par jour, multiplié par le nombre de personnes qui doivent assister à cet atelier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher les gens de famille, les membres de famille,
ses neveux.
Ils vont à Gambela ou dans un marché, là, ils cherchent les habits des mêmes couleurs. Ils vont aller louer des ustensiles là propres et même préparent. Alors, on prend des photos pour vous distraire que non, c'est un service traiteur que nous avons loué.
Oui.
Et ils vont chercher un service traiteur quelque part pour leur fournir des pièces justificatives, voilà. Comme si on a réellement loué ce service traiteur-là. Ouais. C'est comme j'étais en train de faire un audit récemment ici, j'étais étonné de voir une pièce justificative, une facture, c'est écrit là sur l'entête papeterie. Mais à l'intérieur de la facture, libellé, on dit achat eau à boire. Mais moi, j'étais étonné, mais
comment expliquer
l'activité économique du fournisseur ne correspond pas avec le libellé de la facture. Donc tout ça, si vous allez vous rendre compte, ce sont des pièces justificatives qui sont fabriquées, fournies, justement. Et avec des trucs là qu'on prend aussi derrière la poste, là, payer merci, il n'y a même pas en tête. Alors, et les bailleurs ont compris que non, apparemment, on finance, mais on n'arrive toujours pas à résoudre les problèmes. Alors, pour couper court, on fait la co-gestion.
La co-gestion, voilà. On va y revenir, le temps d'accueillir deux auditeurs. Floribert Lema est à Kinshasa et Jérémy Doaban de Nouville. Floribert, bonjour.
La Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, ok. J'ai salué aussi M. Alain Poutou, que je connais bien. Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais demander, dans un ONGD, est-ce qu'est-il important qu'il y ait un conseil d'administration et puis un comité de gestion? Deuxièmement, je voulais aussi demander, est-ce que, comme ce qu'il a dit, qu'il faut engager dans les comités de gestion, il faut engager dans les conseils d'administration, il faut engager un comptable. Les comptables, là, quand vous avez déjà un conseiller financier, est-il important aussi d'avoir aussi un comptable, soit un trésorier? C'était ça ma préoccupation.
Merci Floribert. Jérémy d'Audeban de Nouville, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Et on vous écoute.
Bon, j'ai des questions à poser, mais mon prédécesseur a déjà dit, bon, ce que je peux demander, si l'invité peut me faire la différence entre un gestionnaire d'une entreprise et un comptable d'une entreprise.
Je non, sais pas,
bon, c'est... là, c'est un type de préoccupation.
Oui, Géry, on est dans le cadre d'une ONG, on parle de la gestion, de la bonne gestion des financières. Alors, il faudrait que vos questions cadrent avec le thème. Hein.
Mais c'est ça, la deuxième type de préoccupation, c'est celle-ci. Nous sommes dans une ONG comme ça, privée, puisque les ONG, ce sont des travaux peut-être privés. Bon, dans cette ONG, par exemple, le président qui gère cette ONG, c'est appartient à une autre famille, parce qu'on a mis, par exemple, les parentés de la famille, ou bien papa, maman de cette famille. Vous êtes du hors de la famille. On vous met, par exemple, un caissier dans ces ONG-là. En arrivant, bon, le papa vient de retirer l'argent, ça ordre du président de l'ONG-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Parce que si vous refusez, moi, j'ai même vécu cela, vous allez encaisser des injures, là, qui sont vraiment... Je peux dire trop banal envers vous. Je ne sais pas si l'invité peut me relater par rapport à cela.
Alors, vous voulez dire, vous avez travaillé dans une ONG comme caissier et le frère du promoteur venait chercher l'argent à tout moment.
Ok, ok, c'est bien ça.
Merci, Géry. Alain Poutou, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, pour M. Géry, je vais lui dire ceci. Normalement, dans les procédures, manuel des procédures,
oui.
Il est bien défini que l'ONGD emploie un personnel administratif et technique qu'elle doit rémunérer régulièrement selon ses ressources. Alors, au début, lorsque vous recrutez quelqu'un, il faut lui donner d'abord un contrat. Monsieur le journaliste, ce qui bloque beaucoup d'ONG, c'est la mauvaise gestion dans tous les aspects, je peux le dire. Mmh. Il n'y a pas l'administration, vous n'allez pas trouver qu'il y a l'armoire là avec des classeurs, les choses sont vraiment bien organisées, non. D'abord, quand vous recrutez quelqu'un, vous lui donnez un contrat. Et le contrat là doit aussi définir, n'est-ce pas, les tâches que la personne doit exécuter. Mais vous me dites ici que je suis caissier. Ah, ok, où sont les termes de référence de mon poste? Je sais que dans ce poste ici, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mm-hmm. Même si vous, demain, vous vous réveillez pour me dire, non, écoutez, donnez-moi autant. Mais si ça va en dehors des principes que vous-même, vous m'avez donné, je ne peux pas. Si je vous donne l'argent, vous devez signer. Alors, il a parlé des cas, par exemple, que vous travaillez dans une ONG, les autres sont d'une même famille et vous êtes d'une autre famille. Alors, quand ils viennent demander l'argent, c'est ce que je vous ai dit, qui a créé cette ONG? Vous, on vous a engagé comme qui? On vous a engagé comme un caissier ou bien vous avez été nommé par l'Assemblée Générale, n'est-ce pas? Mm. Alors, si vous avez été nommé officiellement, mais faites votre travail. Même s'il y a des injures, il ne faut pas céder à ça. Ou vous leur dites, ok, si vous voulez l'argent, d'accord, je vous donne l'argent, signez les documents. Parce que moi, je dois rendre compte. Même pour publier les comptes à l'Assemblée générale, dans les statuts, c'est prévu. Il y a un organe là qu'on appelle les commissaires aux comptes. Et ils viennent faire quoi? Ils viennent vérifier, certifier, n'est-ce pas, les finances par rapport au comité directeur. Vous qui avez géré tout ce que les trésoriers et les comptables ont fait. Les commissaires aux comptes viendront encore, n'est-ce pas, pour contre-vérifier, n'est-ce pas, votre rapport. Alors, si vous avez les gens qui vous demandent de sortir l'argent, donnez-les l'argent. Faites-les signer aussi un document. Et vous allez être clair dans votre rapport à présenter au commissaire au compte. Et le commissaire au compte va les interpeller. Parce que même dans les statuts, c'est prévu. S'ils se mêlent dans la mégestion, on doit les exclure complètement de l'ONGD. Alors souvent, les gens savent que, comme lui aussi, il bouffe comme un principe qui dit, si vous mangez seul, vous allez aussi tomber seul. Mmh. Alors si vous mangez en réseau, vous tomberez aussi en réseau. Alors, maintenant, lui, par exemple, il est là caissier. Bon, comme lui aussi, il sait qu'il prend quelque chose, alors s'il doit être vraiment transparent, on va les coincé. Vous voyez, là, c'est pas bon. Mmh. Et par rapport à M. Floribert...
Avant de répondre à Floribert, on va accueillir Dany Binene de Lumbashi. Bonjour, Dany. Dany, vous êtes en ligne, bonjour. Dommage, Dany n'est plus là. Allez-y, hein, monsieur.
Oui, M. Floribert a posé la question... Quel est le rôle, je ne sais pas, du conseil d'administration?
Il dit, vous avez déjà un conseiller financier.
Oui.
Faut-il encore aller engager un comptable?
Oui, mais le conseiller financier, il est pour qui? Dans une ONGD, le conseiller financier est considéré comme un auditeur interne. Vous voyez? Il est considéré comme un auditeur interne. Il est là pour faire quoi? Donner les orientations à qui? au comptable ou au financier qu'on a mis là-bas. Mmh. Aidez d'abord le financier. Parce que c'est qu'il y a un problème. Vous avez reçu 150 $ ou 15 000 $ américains d'un bailleur de fonds. Vous, vous êtes en train de faire les dépenses, n'est-ce pas? Mais il y a des éléments, même la façon de présenter les rapports financiers. Vous pouvez envoyer les rapports au bailleur ou au comité, à l'Assemblée générale, sans bien préparer ces rapports. Mais le rôle de conseiller financier, que moi je considère comme auditeur interne, c'est de faire quoi? Vérifier d'abord le travail que vous, les caissiers vous, ou les comptables, vous avez fait. Mmh. Avant que ce travail-là soit publié, l'auditeur interne ou le conseiller financier doit maintenant voir est-ce que ce que vous avez fait est conforme aux normes ou aux procédures. Il va vérifier, il fait ce qu'on appelle la dernière mainmise. Après avoir retouché les affaires, on imprime ça. Mais donc, les conseillers financiers ne remplacent pas les comptables. Le comptable. Chaque personne a son travail au sein d'une organisation. Mmh. Et c'est très bien d'avoir et les conseillers financiers
et les comptables.
Et les comptables. Mais les conseillers financiers, il faut plutôt l'appeler auditeur au lieu de l'appeler conseiller financier.
C'est un auditeur interne.
Un auditeur interne.
Okay.
Il est là pour vous donner des orientations, mmh. pour certifier le travail que le comptable a fait avant que l'extérieur n'arrive.
Bien, Alphonse est à Ngbokolo, en province orientale. Alphonse, bonjour.
Bonjour, je dis Katsama. Vraiment, je suis très, très intéressé par votre émission et je vous ai appelé seulement pour vous remercier, pour vous demander à l'invité de continuer de la voie parce que je suis aussi un cofondateur d'une ONG qui est basée à Ngbokolo qui s'appelle Union des projets pour le développement rural. En tout cas, je vous ai suivi du début presque jusqu'à la fin avec beaucoup d'attention. Je vous remercie infiniment, monsieur. En tout cas, merci.
Merci, Alphonse, qui nous écoute depuis Ngbokolo, en province orientale, en Ituri. Alors, Alain Poutou, vous avez dit, on peut rappeler, pour avoir une bonne gestion, instaurer une bonne gestion financière au sein d'une ONG, il y a des préalables. Premièrement, il faut avoir un manuel de
procédure. D'abord, c'est ça même la base. Après avoir élaboré les statuts,
oui.
Ok. Après avoir élaboré les statuts doivent être signés par au moins 7 personnes, pas moins de 7.
Les cofondateurs.
Mm. Et après cela, vous devez aussi désigner les membres, n'est-ce pas, du comité de gestion, ce qu'on appelle le comité directeur.
Oui.
Dès que ces membres-là sont désignés,
ils sont avec, nombre de combien généralement?
Il faut les mettre 4. Avec un acte de nomination, il ne doit pas être moins de 4. Ok.
Alors, un secrétaire général.
Vous mettez d'abord le président, parce que vous pouvez être membre fondateur. Mm. Vous n'êtes pas président. Le président doit être, n'est-ce pas, désigné par l'Assemblée générale. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a le secrétaire général, il y a les trésoriers. Ok. Donc, vous pouvez aussi mettre une cinquième personne qu'on peut appeler auditeur.
Ok.
Ok. Alors, maintenant, après avoir désigné ces gens, il faut élaborer ce qu'on appelle le manuel des procédures de gestion. C'est vraiment important. Vous allez vous rendre compte que même beaucoup d'ONG aujourd'hui n'arrivent pas à avoir le financement comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que même quand vous présentez les projets, dans la rédaction du projet, vous verrez qu'à la deuxième partie, on demande même à l'ONG de présenter déjà ses réalisations. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Et ce qu'elle a mené comme activité avant de solliciter le financement, elle a mené ça avec quels moyens? Les sources de financement de ces activités.
Il faut avoir des AGR.
Voilà. Et les résultats pour vérifier, les indicateurs objectivement vérifiables pour vérifier les résultats que vous avez présentés.
Mais souvent, les ONG se plaignent, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement, on n'a pas de bailleurs.
Monsieur les journalistes, elles sont désorganisées. Ces gens-là ne sont pas organisés. Raison pour laquelle ils n'ont pas de financement. Je vous ai dit la fois passée, vous créez une pharmacie, vous écrivez dehors ONGD. Ça c'est pas une ONGD. Est-ce que si on vient, on va trouver tous les
pour échapper.
Il y a des ONGD qui ont, justement, il y a des ONGD aussi qui même n'attendent que les bailleurs de fonds. Ils n'ont pas des activités génératrices de revenus. Mais les bailleurs de fonds se disent bon, ok, si moi je vous donne l'argent aujourd'hui,
qu'est-ce qui me rassure que vous allez...
qu'est-ce qui me rassurer? Et puis dépend du bailleur, c'est quoi? C'est l'impact après projet, la pérennité du projet. Comment vous allez assurer la pérennité du projet si vous n'avez pas les AGR? Voyez, donc ça c'est un aspect vrai. Même à la MONUSCO, on demande même aux gens avant de financer des projets à impact visible. Mais les AGR,
qu'est-ce que vous avez comme
justement,
activité
qui peut générer, alors, tout ça, il faut préciser ça dans les statuts. Hein, vous mettez vos domaines d'intervention et cherchez aussi à insérer une activité, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que les problèmes aussi, les statuts sont mal élaborés. Il y a des gens qui ne savent pas bien présenter les statuts. Alors, déjà quand on lit les statuts, on sent que même sur le plan financier, il n'y a pas les sérieux. Ça pose problème. Et il faut avoir aussi la gestion des archives. Quand on entre dans votre bureau, Monsieur Jody, vous êtes président d'une ONG, même si c'est une petite pièce. faites un effort dès que quelqu'un entre. Il doit trouver les classeurs. Vous précisez les relevés de compte. Vous précisez les rapports financiers. Vous précisez tel bailleur, projet élaboré, les fiches techniques, les time sheets pour les agents. J'étais au sud de Kivu, je vais vous dire sans citer les noms d'une ONG. Vous verrez que et les gens de famille et les gens de l'Assemblée générale, dès qu'ils ont un financement, c'est tout le monde qui est derrière les projets. On gonfle même l'effectif, même là où il faut travailler avec 15 personnes, vous allez voir dans les ressources humaines du projet, 46 personnes. Tout ça, tout un chacun veut se retrouver. Au début, quand on crée les ONGD, on veut donner l'impression qu'on aide les gens. Mais en réalité, on c'est vraiment soi-même. Voilà un moyen pour s'enrichir. Vous voyez un peu Et, mais certains aussi s'entendent même avec... les gens qui approuvent les financements, je vous ai dit la fois passée, vous élaborez mal votre projet, bon, vous l'introduisez, tel est chargé du programme, il voit que le projet n'est pas bien élaboré.
Il vous aide à élaborer,
il vous retourne ça dans votre boîte mail, vous vous imprimez, vous venez déposer comme si c'est vous qui l'avez fait.
Et puis, opération et dès qu'il y a le financement,
ok, vous allez vous retrouver au restaurant pour une opération retour à l'expéditeur. Donc, il y a vraiment du désordre. Alors, pour échapper à ça, vous devez vraiment bien organiser. Et mais il y a même des bailleurs de fonds que moi, j'ai toujours apprécié. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris qu'il y a des désordres dans les ONG. Maintenant, au lieu de donner d'abord le financement comme ça, ils commencent par la première activité qu'on appelle les renforcements des capacités. Appui technique. Montrer à ces ONG-là d'abord comment faire ce qu'on appelle la comptabilité des professions libérales et des ONGD. On va vous montrer comment présenter les comptes, même les pièces justificatives par exemple. Il ne faut pas aller acheter un article et la pièce doit porter le nom d'une personne physique. C'est contre. Même quand les auditeurs arrivent, ils voient, bon, ok, achat ordinateur portable, on voit le nom Monsieur Jody. Non. Les pièces justificatives des dépenses doivent porter le nom de l'association, pas de la personne physique. Donc, ça même, il faut instruire ça à votre logisticien. Quand tu pars acheter, tu pars faire les achats, on vous pose la question, donnez le nom de l'ONGD, ne donnez pas votre nom. Ça crée des problèmes. Il y a même des pièces justificatives, par exemple, vous avez perforé là où il y a un chiffre. Ça, c'est tentative de dissimulation. Alors, tout ça, avec un bailleur de fonds sérieux, il va d'abord vous faire le renforcement des capacités bien avant, que tout soit bien défini, et après, il va vous financer après. Et si vous ne pouvez pas élaborer le manuel de procédure, cherchez les gens qui peuvent vous aider à élaborer ça, et le bailleur va voir, bon, quand même, les choses sont organisées ici.
Alain Poutou, bon, pour les ONG intéressés qui voudraient avoir des renforcements des capacités, on peut vous joindre, est-ce qu'il y a des formations, vous donner des formations.
Oui, nous donnons des formations d'abord sur comment élaborer les statuts, comment élaborer les manuels de procédure, comment élaborer les projets à impact rapide, parce qu'on a compris que c'est vraiment un problème. Les fonds sont là, mais les gens n'arrivent pas à bénéficier des fonds. Et il y a aussi des formations sur les procédures d'obtention de financement. Qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, respecter pour avoir le financement? Alors, notre bureau est juste à Kintambo Magasin, à côté de la, du magasin à son frère, dans l'enceinte de la librairie Mediaspol, mais ils peuvent toujours nous contacter au téléphone par les 09 98 17 21 43 09 97 17 21 43
98
09 98, 98 17 21 43 ou avec Vodacom c'est 082 53 916 à la fin, donc 082 53 916 à la fin. Donc on peut répondre à leurs préoccupations et nous avons même un service des évaluations internes. C'est-à-dire après que vous ayez les fonds du bailleur, nous pouvons vous aider sur comment faire l'évaluation interne, vous aider sur comment gérer les fonds du bailleur, parce qu'il ne faut pas confondre ça votre argent. Si vous gérez mal le premier financement, vous ne pouvez plus avoir le financement. Donc il faut faire un effort, n'est-ce pas, d'avoir la confiance des bailleurs, travailler en sacrifice, produire les résultats. Les bailleurs voient vraiment que vous avez travaillé et plus tard, vous pouvez voir comment vous retrouver. Mais d'abord, il faut atteindre les résultats. C'est vraiment important.
Alain Poutou, expert en ressources humaines, merci.
Je vous en prie.